retour sur notre page YouTube.
Bon, le caucus avec Antonine Iacarini, chaque jour du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. On a réglé le cas du troisième lien.
Check.
Maintenant, Bruno Marchand va être en faveur du troisième lien grâce au troisième lien. Mais là, il faut qu'on se parle, m'attend tantôt.
Hey!
J'ai-tu dit de quoi?
Jean-François Fortin.
T'as pas des nièces, des neveux?
Oui, c'est vrai, j'ai des... j'ai plusieurs filles.
Ben, c'est pas problématique d'abord.
T'appelles ma tante?
On peut pas dire ça des femmes.
Ouais, pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit de dire ma tante?
Mon oncle Jeff.
Ben, j'ai des neveux et des nièces.
Mais t'aimes-tu ça, toi, te faire appeler mon oncle? Mon oncle Jeff, mettons au bureau, on t'appelle de même.
Ouais, non, c'est vrai que je vais avoir l'air un petit peu pas dans mon temps, hein? Ouais. Fait que t'aimerais pas ça? Je peux pas maintenant introduire le caucus en disant « On est avec ma tante Antonine! »
Non, ou ben donc, ce que j'entends beaucoup en politique, ouais, c'est la... Quand on parle d'une
politicienne... Oui, ah oui, la fraîchette.
La fraîchette. Ouais. La Marois.
Toi, par exemple, ça se dit vraiment la Iacarini.
La Guilbeault, la Iacarini.
Ouais, ah, oh, la Guilbeault, là, les poils me... Gars, ça me lève.
Ah,
tu le dis, les poils
moins...
me lèvent.
Ça, c'est dégueulasse.
Ah, ça mérite. Ah. Ça mérite complètement, t'sais, Geneviève Guilbeault, qu'on soit d'accord ou non avec ses prises d'opposition. Elle a quand même bien été en politique, elle a été la vice-première ministre. Elle mérite pas de se faire appeler Guilbeault.
J'ai jamais entendu personne dire le Legault.
Moi non plus.
Le Jolin Barrette.
Non plus.
Personne dit ça.
Le Girard, aux finances.
Hey,
il y a le Girard, là!
T'es pas mort, mon Girard!
C'est ça. Et là, pourquoi on parle de ça? Discours d'Éric Duhaime hier, lors de son lancement de campagne dans Bellechasse.
C'est pas à François Legault, ni à Pierre Fitzgibbon, ni à la successeur des deux, Christine Fréchette, de choisir qui doit avoir du succès en affaires au Québec. C'est avec votre mérite que vous faites de l'argent, pas avec des subventions de ma tante Christine. Et...
As-tu remarqué le... Ouais, c'est ça. Tu l'as remarqué comme moi, c'est pour ça que j'ai laissé... Ouh, qu'est-ce qui vient de
Ils
dire
échappé.
Là?
Il y a une couple de personnes qui sont convaincues que c'est
non,
bon.
Non, c'est ça, t'sais. Mais c'est un échappé majeur, on s'entend.
Bah, c'est majeur. Ça se fait pas. Mais je comprends le principe là, de dire on appelait François Legault mon oncle François souvent, un peu comme un colibé. Là, c'était pas gentil. C'était pour montrer qu'il était passé date ou paternaliste. Mm-hmm. Mais l'équivalent féminin, c'est pas toujours. Ça m'a fait penser. Connaissez-vous la chanson de Fatal Bazooka? Connaissez-vous Fatal Bazooka?
Ben non.
Okay.
Mais dis-moi ça.
J'aurais dû dire ça,
ça
avant le show, là, parce que là, t'aurais
ben
pu
ben,
la chercher.
C'est facile.
Mais il fait juste une liste de mots qui, au masculin, veulent dire quelque chose, mais au féminin, ça veut dire, excusez-moi, c'est vulgaire, pute. Okay?
C'est quoi le nom de la chanson?
Ben, c'est une pute.
Mais le nom de la chanson, c'est une pute ou c'est Fatal Bazooka,
Fatal...
le nom de la chanson?
Non, le gars s'appelle Fatal Bazooka et la chanson, c'est... C'est une pute.
C'est une pute.
OK,
une pute.
Donc, mais bref, ça pour dire que c'est pas parce que tu fais juste changer le genre d'un mot que ça veut dire la même chose. Être ma tante, ça fait un peu misogyne, tu sais.
Puis je veux dire que ça ne vous offusque ou pas, là. En tant que politicien, en tant que chef de parti, faut que t'en sois conscient. Tu peux pas t'échapper comme ça, là. Je veux dire, peu importe où qu'on se situe par rapport à ça puis qu'on dit « Ah, oh, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde », ça reste que c'est un échappé majeur. Là, de... Ben, pas majeur, mais...
C'est un échappé. C'est
un échappé, c'est ça. Tu peux pas te permettre ça. C'est très maladroit de sa part.
C'est maladroit, puis c'est surtout... C'est dommage parce que c'était le lancement de sa campagne, sa candidature à lui. Donc, ça doit être un événement où il se met en valeur. Puis j'ai trouvé que c'était un peu cheap.
Ouais, c'est Fatal Bazooka.
Dans quelques instants, mais tout de suite, on retrouve un message du ministère du meilleur ami de l'homme. J'ai nommé le ministère de la femme avec un message 100% macho sans guacamole. C'est pour vous, les ladies.
N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce.
C'est une pute.
Un coureur, c'est un jogger et une coureuse.
C'est une pute.
Un chauffeur, il conduit le bus et une chauffeuse.
C'est une pute.
Un entraîneur, c'est un coach sportif et une entraîneuse.
Bah, c'est une pute.
Un homme à femme, c'est un séducteur, une femme à homme.
C'est une pute.
Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne.
C'est une pute.
Un cochon, c'est un mec sale, une cochonne.
C'est une pute.
Un salaud, c'est un sale type, une salope.
Bah, c'est une pute.
Un allumeur, ça allume le gaz, une allumeuse.
C'est une pute.
Un masseur, c'est un kiné, une masseuse.
C'est une pute.
Oh, j'adore!
Voilà, alors...
C'est tellement drôle et vrai.
Ben, on peut pas juste changer le genre d'un mot.
Non,
ça
non,
change
non,
le sens.
Exactement. Éric Duhaime, justement, ce matin, sur nos ondes, on l'écoute, voici la façon qu'il s'est défendu.
minutes.
Ben écoute, j'ai pris le même discours que je faisais avant quand je parlais pour dénoncer les subventions puis le paternalisme de la CAQ avec son interventionnisme de subventions à la Northvolt et Lyon Électrique. J'utilisais mon oncle.
Ouais, c'est ça.
C'est pas irrespectueux, là. Je veux pas d'aucune façon manquer de respect à la première ministre. Au contraire, là, je trouve ça heureux. Je l'ai même salué quand elle a été élue, là, qu'une femme accède à la plus haute fonction au Québec pour la deuxième fois. Je pense que ça témoigne l'ouverture des Québécois. Puis je pense que c'est tout à notre honneur. Fait que c'était pas une attaque contre les femmes, là. Je l'ai fait pas mal souvent avec M. Legault, puis ça a jamais marqué. Il n'y a jamais personne qui m'en a reparlé.
OK, premièrement, Benjamin dit « Hey, man, Antonine qui sort fatale, Bazooka, c'est une pute, c'est simplement incroyable. »
C'est jeudi, c'est comme mon vendredi.
Exactement, merci, Anto. Éric qui mentionne « Duhem a le don d'avoir l'attention médiatique pour les mauvaises raisons. » En effet, on s'en reparle. Mais moi, là... C'est-tu, moi, là, qui a trop l'oreille sensible, là, mais tu sais, les Québécois ont accepté de mettre une femme au pouvoir pour la deuxième fois, ça montre l'ouverture. Blablabla. On n'a pas besoin de parler de même.
Ben, non, je pense qu'on a besoin parce que la parité n'est pas atteinte dans la vaste majorité des juridictions.
C'est moi, dans ma tête, qui vois trop d'égalité, puis je me dis, moi, Christine Fréchette a été une femme comme première ministre, tu sais, ça...
Ouais.
Pour moi, c'était pas un événement, parce que je me dis, on est là en démocratie.
Ben écoute, au Canada, il n'y en a jamais eu une deuxième.
C'est vrai, t'as raison.
Aux États-Unis, il n'y en a jamais eu.
Ben, je m'excuse pour mon ouverture d'esprit.
En France, il n'y en a jamais eu.
Ouais, je m'excuse.
Au Royaume-Uni, il y en a eu. Mais tu sais, bref, je pense que c'est quand même notable maintenant. Est-ce qu'il faut en faire un fromage? Bien sûr que non. Puis est-ce que c'est une erreur fatale pour continuer dans la lignée de Fatal Bazooka pour Éric Duhem? Ben non, là, c'est pas grave. Là. C'est juste que Éric Duhem, il doit se rappeler que les sondages démontrent que c'est un des chefs les moins appréciés. Il y a beaucoup de gens qui sont épidermiquement allergiques à Éric Duhem. C'est justement pour ce genre de petits détails-là. C'est pas sur le fond des choses. Moi, je pense qu'au contraire, au Québec, il y a un terreau assez fertile pour les idées conservatrices.
Oui.
Mais tout est dans la manière. Donc, drapeau jaune pour Éric Duhem.
Ben, je suis d'accord. Puis je rejoins Éric qui dit justement, il a tendance à faire parler de lui pour les mauvaises raisons. Puis, tu sais, il a fait parler de lui dernièrement. Pourquoi, tu sais, Bellechasse, tout le monde a dit, mais voyons, qu'est-ce que ça va faire à Bellechasse? Ça va juste dans un comté gagnant. Là, il fait parler de lui pour la matante. Tu sais, ça va pas bien, là.
Puis c'est pas la première fois qu'Éric Duhem fait une sorte de déclaration choc ou que c'est vraiment 3-4 mots qui retiennent l'attention. Mais le problème, c'est que ça arrive tellement souvent que c'est pas nécessairement une bourde qui va te mettre dans le pétrin, mais quand ça en fait plusieurs, le monde, ce qu'ils retiennent, c'est ta citation de 3-4 mots, c'est pas ton explication après. Là. Le monde voit la citation « Ma tante Christine »,« Mon char, mon choix ».
En effet.
Qui frappe comme ça, le monde va juste retenir ça et non c'est ça, nécessairement l'explication derrière tout ça.
Puis les excuses après qui viennent. Ça me fait penser à quand Jean Charest avait traité Elsie Lefebvre à l'époque de... un mot qui était dans le la chanson de Fatal Bazooka. Après ça, t'as beau t'excuser, ça fonctionne pas. Donc, attention. Puis surtout, là, on tombe dans les ligues majeures là, pour le Parti conservateur.
Ben, c'est ça, là.
Tu veux plus rester marginal.
Tu sais, j'écoutais des conférences de presse de l'élection 2022 où... je vous le dis, là! Après le 4 octobre, ils vont encore nous isoler, là! On est plus là, là.
Tu sais, je suis comme agressée.
Ah non, mais je sais, mais c'était ça!
C'est une micro-agression.
Attendez, après le 4 octobre, les masques! On va ramener les masques!
Au secours!
C'était ça, là, le Parti conservateur. Faut que ça aille brin un petit peu plus loin, là, tu sais? Puis là, c'est ça. C'est rare, je fais des imitations.
Va-tu avoir une tempête de neige?
Ah non, chef, il est parti. C'est la pluie dehors, je pense.
Ouais, c'est ça.
OK, on se rapplombe. Bon, ceci dit, pas la meilleure semaine pour Christine Fréchette quand même, et on l'écoute hier sur la dette du Québec.
C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui?
La dette nette aujourd'hui.
Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la Première ministre?
Ben, je voudrais vous donner le bon chiffre.
Environ. Je vous donne du jeu, là. Il n'y a pas de...
Comment? 36% du PIB.
En fait, non, je veux la dette nette en chiffres, en dollars. Est-ce que vous savez c'est quoi?
C'est qui la dette nette?
J'en conclue, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec.
Je vous reviens.
Ça me semble assez clair, Monsieur le Président.
Ah, il est pas fin. Il m'énerve.
Mais c'est correct, je vais vous le dire, c'est 259 milliards.
Tu le trouves pas fin, mon contrat? J'ai trouvé qu'il est pas rentré dedans pantoute. Il a fait son affaire, pour ses petites questions, puis je vais vous le dire, 259 milliards. Toujours dans le même temps. Comment ça, tu le trouves pas fin?
Premièrement, moi, sur le compteur de la dette québécoise, je vois 379.
Ouais, moi aussi, c'est ça que je vois, mais j'imagine que ça doit être la dette avec les intérêts cumulés.
Je sais pas.
Parce que moi aussi, quand j'ai fait ça, mais quand j'ai demandé à l'intelligence artificielle, on m'a dit que la dette nette était de 259 milliards.
Bon, c'est des détails. Oui. Maintenant, moi, oui, je le trouve un peu pas fin, parce que évidemment, c'est son rôle de mettre la première ministre à l'aise. C'est bien correct. Mais dans les faits, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que c'est grave de ne pas savoir le montant de la dette? Il faut avoir une idée. Là. Je veux dire, quand
ouais, c'est... moi, c'est le fait qu'elle n'a aucune idée.
Mais c'est ça qui était problématique.
Puis même le ratio dette sur PIB, là, c'est, elle se l'est fait chuchoter derrière.
Oui, oui, c'est
elle
ça.
Elle
ne
connaissait pas le pourcentage non plus. Là, le 36 %, elle se l'est fait chuchoter derrière, puis il n'y avait pas d'air trop sûr.
On s'entend. Puis c'est comme ça que ça se passe dans l'étude des crédits.
Ouais.
Soit dit en passant, c'est impossible pour aucun élu que ce soit de tout savoir en temps réel tout le temps. Okay, c'est pas possible.
Clair.
C'est pour
ça là,
qu'on travaille en équipe.
En arrière.
Bien sûr.
Mais moi, je m'attendrais à ce que ma première ministre, elle aurait dit 270 milliards. Elle aurait dit le 379 que tu as sur le site web de l'Institut économique de Montréal.
André Fortin, il aurait pu aussi demander c'est quoi le prix de la pinte de lait. C'est quoi, combien ça coûte une pinte de lait, Jeff?
Ben, une pinte de lait?
Un litre ou deux litres?
Deux litres, mettons.
Ouais,
deux litres,
ça coûte à peu près 6,5, je te dirais.
6,5, tu vois, je savais pas ça, moi, parce que je fais pas l'épicerie.
C'est pas 4,50, une
peut-être, pinte de aucune idée.
Deux litres, c'est plus 6,5.
C'est quoi le coût moyen d'un logement au Québec?
Le coût moyen d'un logement au Québec,
tu parles d'un 4,5?
Aucune idée. Regardez,
ouais, c'est ça. Avec la hausse des coûts, ça doit être 1,400.
Mon point, c'est que quand tu es dans l'opposition puis tu fais l'étude des crédits, tu peux garocher des questions quiz de même. Tu vas en trouver une. Monsieur Legault s'était fait pogner avec les logements à Montréal. Il avait dit que ça coûtait 500$.
Oh, oui, en effet. Puis Philippe Couillard s'est fait pogner que l'épicerie à 70$.
Regarde, c'est toujours possible de le faire. Je me suis posé la question. C'est pas bon, là. Je vous dis pas, je veux pas dire, waouh, quelle excellente performance de Christine Fréchette hier. C'était pas bon, OK? Mais est-ce que je veux que la première ministre du Québec ou le premier ministre, peu importe son parti politique, passe des heures à étudier par cœur des données qui changent absolument rien dans la gestion à très haut niveau d'un premier ministre quand t'as déjà t'as un ministre des Finances, je crée bien?
Ouais.
Des fonctionnaires au ministère des Finances qui savent ça en temps réel aussi. Moi, je trouve que c'est pas utile pour le citoyen.
Ah, vois-tu, moi, je suis en contrepartie avec toi parce que je m'attends au moins à ce que notre première ministre ou notre premier ministre connaisse les grandes lignes au niveau de la dette. Ben, c'est dans mes attentes.
Je comprends.
Là, j'ai vu qu'elle avait une méconnaissance totale.
Ben, pourquoi totale?
Ben, parce
qu'elle avait le pourcentage du PIB, elle
non,
pas
mais
rien.
Ça, ça l'est fait donner par en arrière. Elle l'avait pas par elle-même.
Ouais, je vois pas vraiment l'enjeu, puis ça va en devenir un parce que tout le monde trouve que c'est bien épouvantable, mais moi je trouve que Mme Fréchette cette semaine, sa semaine là qu'elle a eue, c'est pas une bonne semaine. OK.
Ouais.
Il s'est passé plusieurs choses. Le courriel d'Éric Girard, après ça les annonces de lundi qui n'ont pas été bien accueillies. C'est une catastrophe. Après ça, il y a eu le camp du oui, le camp du non, on s'est mis à faire du pointage à savoir qui votait oui, qui votait non à la CAQ, et l'étude des crédits pas super performance de sa part. C'est juste une semaine normale en politique, en passant. C'est que là, on compare beaucoup avec son « sans faute », que je mets entre guillemets, du début. Et je veux juste dire, il n'y avait pas d'Assemblée nationale. C'est sûr, c'est facile.
Non, je sais. Bien, c'est ça. Donc, est-ce que ça démontre une certaine faiblesse à débattre? Est-ce que ça démontre une certaine méconnaissance de dossier? Parce que, tu sais, juste hier, et on l'écoute, sur la taxe concernant l'assurance...
50 $ par année, c'est 96 sous par semaine. C'est bien ça?
Ça, c'est une moyenne.
Je vous demande très précisément, là, il y a une taxe sur les produits d'assurance qui va faire en sorte que quand on achète une assurance auto, une assurance habitation, on va payer plus cher parce que vous augmentez le taux de taxation. Vous n'étiez pas au courant de ça?
Écoutez, c'était pas dans mon territoire à moi au moment où ça a été annoncé. J'étais à l'économie, à l'innovation, à l'énergie. Donc, j'étais pas nécessairement au fait.
Quand vous avez dit... Je veux des mesures pour, comme vous le dites, là, alléger le fardeau des Québécois. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des mesures pour augmenter le fardeau des Québécois qui s'en venaient?
Écoutez, j'entendais pas de retourner à des décisions qui ont été prises dans des budgets antérieurs.
Ça, c'est-tu plus majeur que la dette? C'est ce que je pense aussi, parce que t'sais, les auditeurs là, par texto me disent « Hey, crème, moi, je considère qu'il faudrait qu'elle connaisse la dette. » C'est correct, c'est votre opinion, puis j'ai la même opinion que vous. Mais ça, pour moi, c'est plus majeur, parce que
Mais là, elle vient de faire des annonces sur le coût de la vie.
De faire, c'est ça. Ben oui. Mais tu penses pas. Puis si tu voulais marquer une fracture avec Legault, t'as renlevé cet 1%-là.
Tu sais, je reviens sur sa performance de façon générale. Elle a pas moins bien performé que François Legault en étude des crédits. OK? Soyons clairs ici. Là. Mm-hmm. On est plus dur avec elle cette semaine parce que là, c'est un petit peu ce que j'appelle la trame narrative de la semaine. Okay?
Ben parce, oui, puis là, mais... parce qu'elle est sur le terrain aussi. Là.
Oui.
C'est comme un peu le Canadien qui shot pas au but.
C'est un peu la même chose, effectivement. Et... lundi, elle avait des annonces sur le coût de la vie. Donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui a échappé quelque chose. Parce que si on dit on baisse les tarifs des Québécois, on remet de l'argent dans le portefeuille, bien, il faut savoir les zones de risque. Tu sais, quand tu briefes un ministre ou que moi, j'aide un client à préparer quelque chose, on va dire, OK, voici ce qu'on dit. Là, attention, zone de risque. On est plus fragile sur ça parce qu'on a fait ça avant. Il ne faut pas l'oublier. Puis là, évidemment, ils ne vont pas le mettre de l'avant plus qu'il faut. Mais je veux juste dire aussi que quand ça a été mis en place, là, cette hausse de taxes-là, personne n'a rien dit. Les oppositions, ça ne sont pas... Tu sais, il s'est rien passé. Puis là, bang, ça revient comme un boomerang. Ça a été échappé. Il y a eu aussi un autre échange avec le chef du PQ qui lui a posé des questions sur Nemaska Lithium, gros dossier avec pas mal d'argent public aussi. Et on n'avait pas de réponse claire. Donc, PSPP qui voulait savoir, étiez-vous au courant de cette étude, de ce rapport sur les risques qui ont été mis en lumière dans les médias cette semaine et que c'était flou.
Faut que son équipe soit meilleure aussi. Puis là, ça m'amène au point qu'il y a énormément de gens qui ont quitté le bateau de la CAQ. As-tu trouvé une équipe de juniors?
C'est sûr que la moyenne d'âge a baissé à la CAQ là, depuis quelques mois. C'est normal. C'était la même chose au fédéral dans les dernières années de Justin Trudeau.
Ouais.
Maintenant, moi, je ne vois pas un problème de compétence tant que... En fait, de niveau de compétence, mais peut-être un problème de type de compétence. Je m'explique.
Vas-y.
Les gens les plus politiques... Là, les plus sneaky, là, tu sais, qui des bêtes de stratégie politique, étaient davantage dans l'entourage de M. Drainville. Autour de Mme Fréchette, on est plus dans des gens de gestion de l'État, grande politique publique.
On est-tu plus en gestion marketing aussi, l'image? Parce qu'on a fait beaucoup
plus,
une image.
Pas plus ou moins, que M. Legault ou M. Drainville, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins sur d'où pourrait venir le prochain coup.
Ah, ils sont moins prévoyants.
Des gens, tu sais, il faut
dire aussi... Ils ont moins d'expérience pour voir où est-ce qu'on va se faire pincer dans le détour.
Il faut avoir travaillé dans l'opposition aussi, je pense. Pourquoi? Puis il y en a, là.
C'est vrai.
Je veux pas dire qu'il y en a pas, mais quand tu as travaillé dans l'opposition, tu connais les trucs de l'opposition.
Puis j'ai l'impression que c'est pas juste avec l'opposition, c'est avec les journalistes aussi pour avoir couvert quelques points de presse de Mme Fréchette. Alors, c'est sur l'annonce du jour. Elle est très bien préparée. Mais quand on passe sur des questions en lien avec d'autres sujets, on aurait dit qu'elle n'a pas été bien préparée par son équipe. Je me souviens à un point de presse qu'on avait questionné sur son aide à Kaoyan.
Elle n'avait pas de réponse.
Mais elle se souvenait même pas qu'elle a répondu, c'est au chef du Parti libéral, mais c'est plus une députée libérale.
Oui, puis là, à sa défense, les crédits... Bon, l'étude des crédits, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qui nous écoutent, c'est un exercice de reddition de comptes qui... génère une dépense d'énergie de la part de tout le monde qui est énorme. Okay? Donc, dans le fond, d'abord, il y a les fonctionnaires qui vont préparer des gros cartables avec tout ce qui a été dépensé dans une année. C'était beaucoup de papier à l'époque. Il y a peut-être un peu plus de numérique qu'à mon époque. Après ça, les oppositions reçoivent ça. Et là, ils épluchent pour essayer de trouver des affaires pour attaquer le gouvernement. Okay? Puis des fois, ils vont trouver des choses vraiment dans les crédits, puis des fois, ils vont juste aller sur le sujet du jour, puis regarde, comme Marc Tanguay, là, votez oui, votez non, c'était pas dans un cahier de crédit. Là. Il a trouvé ça dans sa tête. On s'entend, c'était très bon. Puis après ça, on va briefer les ministres. Là. C'est des briefings. C'est énormément d'infos. Imaginez quand t'es premier ministre. Là, c'est n'importe quel dossier.
C'est pour ça que je dis que ça te prend une équipe solide derrière, là.
Ben oui, puis d'ailleurs, je me pose la question. Hier, quand elle s'est fait demander pour la dette, son sous-ministre juste à côté, lui non plus, il n'a pas de notion.
Oui, c'est ça, puis ça ne tentait pas juste de googler en 2 secondes, il y aurait eu une réponse.
C'était long, hein?
C'est l'enfer. Écoute, l'extrait 44 secondes, on cherche ça. Un matin, ça m'a pris 2 secondes sur mon ordinateur.
Puis c'est 40 secondes qui avaient l'air de comme une heure.
Oui, exactement. Hey, tu fais le point, justement, en parlant d'études de crédit. Tu as parlé de Marc Tanguay, on l'a fait jouer hier, qui en firewipé complètement, Jean Boulay, dans le camp du non. Ça va faire mal à Christine Fréchette, on écoute.
Advenant un référendum sur la souveraineté, la première ministre se rangerait dans quel camp?
Nous, on est dans le camp des Québécois. Les Québécois n'en veulent pas de référendum et c'est le parti qu'on a choisi. c'est le camp des Québécois.
Alors, ce que la première ministre nous dit aujourd'hui, c'est que si le Parti québécois est élu et qu'elle est députée de Saguenay, elle va rester sur les lignes de côté?
Les Québécois ne sont pas là. Les Québécois ont évolué. C'est en phase avec les Québécois qu'on avance. On travaille notamment sur le coût de la vie.
Les Québécois ont évolué, mais est-ce qu'elle a évolué? Parce qu'en 1995, elle a voté pour le oui. Alors, est-ce qu'elle a évolué depuis?
J'ai évolué. Je suis dans le camp des Québécois.
Et vous ne l'étiez pas à l'époque?
Et les Québécois n'en veulent pas de référendum. On travaille pour qu'il n'y en ait pas. C'est notre orientation.
Pauvre elle!
Mais en même temps, Marc Tanguay aussi a voté oui en 1995.
Exactement. Non, mais ce que je veux dire, pauvre elle, là, c'est que son équipe vient complètement de la mettre dans une position inconfortable avec « Hey, moi, je vais être dans le camp du Nord, M. Tanguay, qui a un petit sourire en coin. » J'en voulais, il avait le goût d'aller...
Il a ouvert une boîte de Pandore.
Il avait le goût là, de prendre Marc Tanguay dans ses bras et de dire « On va aller battre les méchants souverainistes ouais. » quand ils sont dans deux partis politiques différents. Puis après ça, Mathieu Lacombe qui a senti le besoin de dire « Wow,
mais de compenser.
La CAQ, on n'est pas fédéraliste. »
Mais d'ailleurs, j'ai remarqué que les gens trouvent que c'est une plus grave erreur Mathieu Lacombe. C'est comme si c'était logique. T'sais, tout le monde le sait qu'il y a des fédéralistes.
Ouais.
Puis des anciens
souverainistes.
Ben là,
voyons. Ouais, oui, mais là.
Mais les gens, ils ont appris cette semaine que Mathieu Lacombe était souverainiste.
Hey, moi, ça m'a pas. En début de mandat. Je l'ai pas appris, moi.
Ben, en début de mandat, il l'était pas. Hein?
Non.
Non.
C'est vrai, il vient d'Outaouais.
Je pense que plus tu connais la machine, plus tu as affaire au fédéral, plus tu deviens souverainiste.
En effet, ça se
fait. Cela dit, tu as raison, Christine Fréchette, c'est vraiment tannant pour elle. Ça a mis beaucoup, beaucoup de fritures sur la ligne cette semaine. Mais c'est pas parce que Jean Boulay n'aurait pas fait ça qu'elle ne serait pas dans la même situation. Mm-hmm. Parce que la position de la CAQ est un petit peu plus compliquée. C'est non binaire.
Mais c'est parce qu'elle
est
dans une. Depuis que Boulay et Lacombe ont fait leur sortie dans une situation perdant, puis je m'explique. C'est que ça, elle arrive, puis elle dit à André Fortin hier: hey, écoutez, j'en veux pas de référendum, fait quoi, je vais être dans le camp du non. Ben là, PSPP a la porte grande ouverte. Gardez la gang de fédéralistes, votez pour moi, la nation, l'identité, etc. Ça, elle dit: ben écoutez, là, j'ai voté oui en 95, fait que s'il y a un référendum dans le premier mandat, si le PQ prend le pouvoir, puis il y a un référendum, je vais voter oui encore. Et crime, là, c'est les libéraux. Même affaire, la CAQ veulent nous séparer,
oui.
L'incertitude.
Puis pour les libéraux, fait c'est pas fait, là. Parce que c'est le seul parti qui est fédéraliste.
Ben oui.
Bon, seul parti. Là, Éric Duhaime dirait le contraire, mais Éric Duhaime aussi a été péquiste à l'époque. Hein? Donc, les libéraux peuvent dire que c'est tous des crypto-souverainistes.
Éric Duhaime était conseiller pour Mario Dumont quand il a fait partie du camp du oui.
Donc, voilà. C'est pas une très bonne semaine en termes de communication politique. Elle s'est retrouvée sur la défensive. C'est pas nécessairement Charles Milliard qui l'a mis sur la défensive, parce que je me disais, au début de la session, on trouvait que c'était lui qui était sur la défensive. L'équipe de Fréchette avait réussi, avec l'histoire de la clause dérogatoire, à le mettre sur la défensive. Là, c'est Éric Girard qui a mis Christine Fréchette sur la défensive. Puis après ça, ça a été la thématique du reste de la semaine.
Mais je te fais écouter, Éric Girard, il a essayé de se rattraper. Écoute bien ça.
Okay.
C'est très simple. La première ministre était très bonne. Elle connaît le chiffre en pourcentage du PIB qui est lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018-2019, il était de 43 % du PIB. Aujourd'hui, il est 39. Et puis, juste pour être clair avec tout le monde, là, oui, la dette nette, elle a augmenté depuis qu'on est au pouvoir, mais les deux tiers de l'augmentation, là, ce sont des dépenses en infrastructure extrêmement nécessaires et importantes qu'on fait pour tous les Québécois. Je m'excuse, je dois m'en aller vers là.
Je m'excuse, je vais
m'en aller.
Il a pointé l'escalier, je m'en vais. Parce que là, il s'est dit, hop, je viens de dire le mot infrastructure.
Il a ouvert une autre boîte. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Fait que je sais qu'il y a pas mal de monde là,
moi, je l'ai pas trouvé
bonne. Épouvantable.
Non,
j'ai pas dit qu'elle était bonne. Je dis juste que moi, je veux pas que les premiers ministres perdent leur temps pendant 8 heures à apprendre des niaiseries.
Je suis très d'accord avec toi.
Sur le détail près.
Mais la c'est dette, ça que je pointe. La dette, pour moi, c'est pas une niaiserie, puis je veux juste qu'elle ait un environ deux.
Ben en fait, pour moi, la niaiserie là-dedans, c'est Éric Girard. Excuse-moi. Non, mais honnêtement, Christine Fréchette ne connaît pas la dette nette. De base, ça crée scandale présentement. Mais Éric Girard, le lendemain, c'est rire du monde de venir dire « Madame Fréchette était excellente,
très
voyons.
Bonne.
Elle était très bonne.
Ben, » je pense qu'il faut qu'il se rattrape.
Ben non, c'est ça, là.
Faut qu'il se rattrape. Mais un citoyen normal qui est fâché de voir que Christine Fréchette connaît pas la dette du Québec, puis le lendemain matin, il se réveille, puis c'est le ministre des Finances qui lui explique « Ben non, Madame Fréchette était excellente, elle connaissait les chiffres. »
Parce que, non, parce que samedi, Éric Girard, il a donné un coup de pied à Christine Fréchette. Il l'a fait chavirer à l'eau du bateau. Puis là, aujourd'hui, il a juste tiré à bouée. Mais ça a pris 4 jours. Fait que là, elle est un peu en difficulté.
Pauvre Éric. Hey,
moi, je veux terminer avec toi. Demain?
Demain.
Ben, demain.
Qu'est-ce qu'il y a demain?
Ben, ça va être l'amour à Sainte-Hyacinthe.
Ah oui!
Et ça François, Paul Saint-Pierre Plamondon, ils vont être ensemble.
Unis.
Unis.
Pour la vie.
Pour Simon-Pierre Savard Tremblay. Ça, ses
ça
parents.
C'était qui?
Ça, ses parents ne l'aimaient pas. Hein? Simon-Pierre.
Mais ça, c'est un bon conseil. Si vous voulez donner un nom composé à vos enfants,
ah ouais, pas
choisir
un prénom
un
composé.
Nom de famille.
Là, t'sais, c'est ça, juste ouais. Un nom de famille. Ou si tu prends deux noms de famille, juste un prénom. Parce que là, Simon-Pierre Savard Tremblay. Mais remarque, ça marche. C'est PSPP, donc lui, c'est SPST.
C'est mélangeant.
PSPP va présenter SPST.
Je peux pas apprendre deux acronymes de même là, en même temps. Non.
Donc, dans Sainte-Hyacinthe, ce qu'on comprend, c'est que je le connaissais pas du tout. Donc, c'était une grande vedette du Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay, SPST. Et là, il va se présenter dans le comté de Sainte-Hyacinthe pour le Parti québécois. Puis on va en faire un gros show demain parce que ça va être le show de l'unité entre le Bloc et le Parti québécois. Pourquoi? Pour notre nation, notre pays, notre
ben
Québec.
Oui, puis le pays, on a toujours dit, ça se fera pas à Ottawa.
Exactement.
Il veut être aux premières loges.
Fait que là, lui, il s'en va à Québec.
Ouais, ça fait quelques mandats qu'il est élu. SPST, non ça?
Oui, SPST.
Mais regarde, tu vois, je vais l'apprendre.
C'est fort.
Moi, je savais c'était qui quand même. C'est quelqu'un aussi qui était très présent dans l'espace public avant de se présenter comme député. C'est un souverainiste convaincu qui participait au débat public là, dans des chroniques, des lettres ouvertes, etc. aussi. Alors, qu'est-ce que tu es en train de mettre là?
C'est le seul qu'il reste. C'est Jean Dupuy?
Ah, c'est Jean Dupuy.
Continue de parler quand ça va devenir
ben,
Jean Dupuy.
Faudrait qu'on parle de Gilles Vigneault éventuellement. Hein? Faudrait qu'on y rende honneur davantage.
Deux journaux en ligne avec Paul Pichet.
Mais ça, c'est pas Paul Pichet.
Oui, c'est la version Paul Pichet-Gilles Vigneault.
Ah! Paul Pichet chante avec... Mon Dieu.
Ben oui, hey,
c'est votre tour.
Ça, c'est Gilles.
Ben oui.
De vous laisser parler d'amour, Jean Dupuy. C'est votre tour de vous laisser parler.
418-971-1021, aimez-vous mieux Fatal Bazooka ou Jean Dupuy?
Ou la parodie de Rock et Belles Oreilles de Gilles Vigneault. Ça vaut 100$. Tout ouais. Ça, c'est sur YouTube en passant. Là.
Est-ce que tu. Ouais, continue donc sur
qu'est-ce que tu veux savoir?
SPST, là, c'est qui lui-là? Là?
Bon, peu importe qui il est, je pensais à la situation du Bloc québécois en voyant qu'il perdait un député. Tu sais, récemment, il y avait pas mal de conservateurs qui traversaient la Chambre pour aller vers les libéraux. Il y avait même quelqu'un du NPD qui a traversé. Il y a un autre député du NPD qui s'en va chez QS, Alexandre Boulris. Mm-hmm. Puis là, on se disait, mon Dieu, juste le Bloc, on dirait que tout le monde est on board, là, puis que les députés ne quittent pas. Finalement, ben aujourd'hui, la nouvelle tombe. Ça fait une candidature supplémentaire pour le PQ qui doivent être bien contents. Mais les élections partielles qui vont en découler, parce que là, on
oui.
A Sainte-Hyacinthe qui va tomber en élection partielle éventuellement. Là, il va demeurer en poste, je pense, le plus longtemps possible.
Oui, parce que là, il va devenir indépendant.
Oui,
donc, j'imagine que la campagne électorale, normalement, commence après l'été, fait qu'il va rester au moins jusqu'en septembre.
Au moins, puis on a 6 mois là, pour déclencher une élection partielle.
Parce que là, c'est l'ennemi commun, mon oncle Marc, qui fait « Haha, peut-être un autre comté pour moi! »
Ben, c'est ça. Je regardais les projections sur Québec 125 pour Sainte-Hyacinthe, 42% Bloc, 36% Parti libéral.
C'est serré, oui.
C'est quand même pas une grosse marge.
Non.
Et François Blanchet, qui va être présent pour la conférence avec le PQ,
ouais.
Va falloir qu'il prenne sur lui un peu, là, on s'entend, il doit être frustré de ça quand même.
Ben, ça doit pas être une excellente nouvelle.
Ben non, ouais.
En même temps, je me mets à sa place, peut-être qu'il se dit, bon, écoutez, il y a un contexte là, en ce moment, là, avec le PQ, on a une chance
pour
de faire un
pays.
Référendum pour le pays. La note de la fin.
La belle finale.
Deux autres élections partielles fédérales
ouais.
À venir aussi. Laurier-Sainte-Marie, évidemment, avec mm-hmm. Le départ bientôt de Stephen Guilbeault. Je regarde les projections. Libéraux, 52%, NPD, 20%. Honnêtement, le moi, je peux pas croire que le NPD va faire 20%, mais on verra évidemment qui seront les candidats. Le Bloc à 14%. Laurier-Sainte-Marie, ça a été longtemps bloquiste. Ça a été le comté de Gilles Duceppe.
Seigneur,
quand il était chef du Bloc. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour le Bloc de voir que c'est à 14 %. Évidemment, il y a encore beaucoup de changements démographiques dans ces circonscriptions-là. Et la dernière partielle sera dans Rosemont avec le départ d'Alexandre Boulris. Et là, les libéraux pourraient aller faire un gain. On voit les projections, 41 % pour le NPD, 32 % pour les libéraux. Oubliez ça, là. À moins que le NPD présente, là, je sais pas, là. J'ai même pas d'idée.
Mais
à
quel candidat vedette, entre guillemets, voudrait se présenter pour le NPD de toute façon?
Ben là, ça va pas super bien au NPD. Pas beaucoup d'ancrage au Québec. Tu sais, dans le fond, Alexandre Boulris, les gens votaient pour lui.
Oui, ils votaient pour lui, ils votaient pas du tout pour le
Donc,
NPD.
Donc, les libéraux qui sont à 32 % dans les projections, le Bloc à 15 %.
Hey, c'est énorme, la
c'est
différence.
C'est quand même des grosses marges. Pour le Bloc, c'est difficile de voir un gain potentiel, mais pour les libéraux, ça pourrait être un autre gain. Donc, trois élections partielles fédérales.
Hey, ça va être
on
intéressant.
S'ennuie pas.
Yes! Je termine avec un texto d'Alexandre. Et merci, vous avez vraiment réagi énormément. On sent que les noms du troisième lien vous ont dégourdi pas à peu près. Je trouve les questions tellement hors contexte. En tant que citoyen, je souhaite entendre parler des projets, de la gestion financière de la province, des mesures pour les familles, etc. Je me fous de savoir si la première ministre voterait oui ou non. Je déteste le côté téléroman de la politique. Je suis entièrement d'accord avec toi,
Alexandre. Je peux le comprendre.
Ah oui, je suis d'accord avec toi à 100 %. Merci de nous avoir écrit au 418-971-1021. Bon, on a réglé le problème de pont.
Ouais.
On a réglé le problème de ma tante. Parce qu'on s'était dit qu'il fallait régler trois problèmes. Bien là, après la pause, il en reste un. Les tirs au but du Canadien.
Ça, je peux rien pour vous. Bye-bye.
On s'attaque à ça, les amis, avec Alex Laramain. Comment le Canadien peut bien tirer plus de fois que les Hurricanes? Ils perdaient 3-0 hier en troisième période. Ils ont fait trois lancers, deux quasiment derrière de la ligne bleue, puis les Hurricanes en ont fait 19.
C'est pas drôle, je pense qu'on a plus de chances de régler le problème de troisième lien que le problème de tir du Canadien.
Aïe, 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 c'est tout dire. Êtes-vous d'accord avec Mathias Turcotte, 418-971-101? On revient dans quelques instants avec Alex Laramain.